Aventure de l'anglais. Le français cessa de parler. Notre troupe continua pendant quelques instants à se promener sur le rivage en silence. Le récit du peintre avait fait une profonde impression, surtout sur la belle vénitienne. À l'endroit qui concernait la jeune fille de Frosinone, elle avait été violemment affectée. Elle pleurait, elle se serrait contre son mari, et tandis qu'elle le regardait comme pour implorer sa protection, les rayons de la lune, qui se réfléchissait sur sa jolie figure, la montrèrent plus pâle que de coutume et embellie par les larmes qui brillaient dans ses beaux yeux noirs. Nous retournâmes aussitôt à l'auberge et nous nous séparâmes pour aller nous coucher chacun de notre côté. La belle vénitienne, quoique d'un caractère doux, était presque en colère contre l'anglais à cause de l'espèce d'indifférence qu'il avait montrée pendant toute la soirée. Elle ne pouvait comprendre son aversion pour ce qu'il appelait des bagatelles. Aversion qui semblait avoir à usurper une certaine autorité sur lui et gouverner ses opinions aussi bien que ses actions. « Je parie, dit-elle à son mari en se retirant, qu'avec cette indifférence affectée, le cœur de cet Anglais tremblerait à la seule vue d'un brigand. » Son époux la reprit avec douceur et bonté. « Je ne peux pas supporter ces Anglais, dit-elle en se mettant au lit. Ils sont si froids et si insensibles. » Dès le matin, tout fut en mouvement dans l'auberge à Terracine. Le Ploccaccio avait continué, au point du jour, sa route vers Rome. Mais l'anglais restait encore à partir, et le départ d'un équipage anglais est toujours fait pour mettre une auberge en mouvement. Il y avait même, ce jour-là, plus de bruit qu'à l'ordinaire, car l'anglais, qui était muni de toutes sortes de choses fort propres à exciter la tentation des voleurs, s'étant enfin convaincu du danger de la route, s'était adressé à la police et avait obtenu, en échange d'un pays libéral, une escorte de 8 dragons et de 12 soldats à pied qui devaient le conduire jusqu'à Fondi. Peut-être aussi y avait-il un peu d'ostentation dans l'affaire, quoique, à dire vrai, il n'y en eut aucune dans ses manières. Il se promenait de long en large, taciturne et réservé comme à l'ordinaire, au milieu de la foule des curieux, donnant ses ordres laconiques à John pendant que ce dernier empaquetait les 1001 commodités indispensables pour la nuit. Il mettait double charge dans ses pistolets, et les plaçait dans la poche de sa voiture sans faire attention à deux yeux perçants dirigés sur lui du milieu de la foule des oisifs. La jolie vénitienne s'approcha de lui et lui demanda d'une voix douce s'il voulait permettre à leur voiture de voyager sous la sauvegarde de son escorte. L'anglais, qui était occupé à charger une autre paire de pistolets pour son domestique et tenait la baguette entre ses dents, lui fit signe de la tête que oui, comme une chose toute simple, mais sans lever les yeux. La belle vénitienne fut un peu piquée de ce qu'elle prit pour de l'indifférence. « Oh Dieu !» murmura-t-elle doucement en se retirant. « Quanto sono insensibili questi inglesi ?» Enfin, la petite caravane se mit en route, présentant une apparence formidable. Les 8 dragons caracolant en tête, les 12 soldats formant l'arrière-garde, et la voiture s'avançant doucement au centre pour permettre à l'infanterie de la suivre. Ils avaient à peine parcouru l'espace de 100 verges qu'on aperçut qu'il manquait un article indispensable. De fait, la bourse de l'anglais était restée à l'auberge, et John y fut envoyé pour la chercher. Cela occasionna un petit délai, pendant lequel la voiture de la vénitienne continua lentement sa route. John revint, hors d'haleine et fort triste. On ne pouvait trouver la bourse. Milord était irrité. Il se souvenait encore de l'endroit où il l'avait laissée. Il ne doutait pas que le domestique italien ne l'eût prise. John fut renvoyé une seconde fois. Il revint encore sans la bourse et accompagné de l'aubergiste, du valet, de toute l'auberge avec lui et d'un millier de serments et de protestations, embellis d'une foule de grimaces et de contorsions différentes. On n'avait pas trouvé de bourse. Son Excellence pouvait s'être trompée. Non, Son Excellence ne s'était pas trompée. La bourse était sur la table de marbre, sous le miroir. Une bourse verte, à moitié pleine d'or et d'argent. Encore un millier de grimaces et de contorsions, et de serments par San Gennaro, qu'on n'avait vu aucune bourse de cette façon. L'anglais devint furieux. Le garçon de l'auberge avait pris la bourse. L'hôte était un coquin. Sa maison une caverne de voleurs. Ce pays était affreux. Il y avait été volé et écorché d'un bout à l'autre. Mais il en aurait satisfaction. Il allait tout droit s'adresser à la police. Il allait ordonner au postillon de retourner. Quand en se levant, il déplaça le coussin de la voiture et la bourse tomba par terre avec un petit bruit sonore. Tout son sang parut lui remonter au visage. Maudite bourse ! S'écria-t-il en la ramassant. Il jeta une poignée d'argent au pied du garçon d'auberge tout pâle et tout tremblant. Allons, partons, s'écria-t-il. John, ordonne au postillon de partir. Plus d'une demi-heure avait été perdue dans cette discussion. La voiture vénitienne avait continué sa route, ceux qu'elle renfermait regardant à chaque instant derrière eux et s'attendant d'un moment à l'autre à être suivis de l'escorte. Ils arrivèrent insensiblement à un angle formé par un détour de la route qui les mit entièrement hors de vue. La petite escorte, cependant, s'était remise en mouvement et offrait un spectacle fort pittoresque en s'avançant le long des rochers, le soleil du matin lançant ses rayons sur les armes des soldats. L'Anglais s'était enfoncé dans sa voiture, fâché contre lui-même de ce qui s'était passé, et par suite en colère contre tout le monde, comme ce n'est pas rare chez les gentlemen qui voyagent pour leur plaisir. Et cette observation n'est pas oiseuse. L'escorte, cependant, avait quitté la côte, s'avançait au milieu des collines, et était parvenue à une partie de la route qui offrait une vue assez étendue. « Je ne vois pas la voiture vénitienne, milord, » dit John se penchant du siège à la glace de la voiture. « Bah !» dit l'Anglais avec aigreur. « Ne me parle pas de cela. Faut-il que je sois continuellement occupé des étrangers ?» John, bien au fait de l'humeur de son maître, ne dit plus mot. La route devenait de plus en plus sauvage et solitaire. Il gravissait lentement une hauteur. Les dragons étaient en tête à quelque distance, et déjà parvenus au sommet de la colline quand ils poussèrent un grand cri et galopèrent en avant. L'Anglais, à ce bruit, s'éveilla de sa mélancolique rêverie et sortit sa tête de la voiture qui était parvenue au sommet de la montée. Devant lui s'étendait un long sentier dominé d'un côté par des rochers menaçants et couvert de buissons et d'arbres forestiers. À quelque distance, il aperçut la voiture de la vénitienne renversée. Une nombreuse troupe de bandits était occupée à la piller. Le jeune homme et son domestique étaient prisonniers et à moitié dépouillés, et la jeune dame entre les mains de deux des bandits. L'Anglais saisit ses pistolets, sauta de la voiture et ordonna à John de le suivre. À l'instant où les dragons arrivèrent, les voleurs qui entouraient la voiture quittèrent leur butin, se rangèrent en bataille au milieu de la route et, après avoir mis en joue leurs carabines, ils firent feu. Un des dragons tomba, un autre fut blessé et toute la cavalerie fut pour un instant culbutée et mise en désordre. Les voleurs chargèrent une seconde fois. Les dragons tirèrent, mais sans résultat apparent. Ils essuyèrent encore une autre bordée qui, quoiqu'elle ne renversât personne, les mit une seconde fois en désordre. Les bandits allaient charger de nouveau quand ils virent approcher l'infanterie. « Scalupa vice !» fut leur cri. Ils abandonnèrent leur proie et se mirent à fuir au milieu des rochers, poursuivis par les soldats, se retournant de pierre en pierre, de buisson en buisson, sur ceux qui les poursuivaient, et tirant sur eux tandis qu'ils grimpaient sur les roches et déchargeaient leurs mousquets chaque fois qu'ils en trouvaient l'occasion. De temps en temps, un soldat ou un voleur était renversé et tombé, roulant le long des rochers, et un feu bien nourri se faisait entendre sur toutes les parties de la montagne. L'Anglais était arrivé en toute hâte sur le lieu de la scène, et les balles tirées contre les dragons avaient sifflé autour de lui. Cependant, un seul objet attira toute son attention. C'était la belle vénitienne entre les mains de deux voleurs qui, au milieu du désordre et de la confusion du combat, l'entraînait malgré ses cris dans les montagnes. Il aperçut sa robe entre les buissons, et il sauta par-dessus un rocher pour couper le chemin aux voleurs qui emportaient leur proie. La roideur de la montée et les arbres qui s'opposaient à son passage l'arrêtèrent un moment. Il perdit la jeune femme de vue, mais il fut bientôt guidé par ses cris qui devenaient de plus en plus faibles. On l'entraînait dans la partie gauche de la forêt, tandis que le bruit des mousquets indiquait que le fort de la bataille était à droite. À la fin, l'Anglais s'ouvrit un passage entre les rochers et aperçut à quelque distance les deux brigands qui entraînaient la jeune dame. L'un d'eux, l'entendant approcher, abandonna sa proie, vint droit à lui et, saisissant sa carabine qui était suspendue derrière son dos, il tira. La balle effleura en sifflant le chapeau de l'Anglais et lui enleva une mèche de cheveux. Il répondit promptement par un coup de pistolet et le voleur tomba. L'autre brigand lâcha la vénitienne et, tirant de sa ceinture un long pistolet, il tira à bout portant sur son adversaire. La balle passa sous son bras gauche qu'elle blessa légèrement. L'Anglais s'avança sur lui, déchargea son second coup et le blessa, mais peu dangereusement. Celui-ci tira son stylet et se précipita sur l'Anglais, qui éluda le coup et se défendit avec son pistolet au bout duquel était fixée une petite baïonnette. Ils commencèrent à se serrer de près et un combat désespéré s'ensuivit. Le voleur était un homme robuste, à larges épaules, adroit et léger. L'Anglais, quoique plus gros et plus fort, était moins vif et moins accoutumé aux exercices athlétiques et aux combats de ce genre. Cependant, il fit preuve de talent et se montra savant dans l'art de la défense. Leur champ de bataille était sur le sommet escarpé d'un rocher, et l'Anglais s'aperçut que son antagoniste cherchait à les pousser sur le bord. En outre, il vit l'autre bandit qui l'avait blessé le premier se traînant au secours de son camarade, le stylet à la main. Il le voyait déjà arriver sur le bord du précipice et, n'ayant plus que quelques pas à faire, il sentait que sa position était désespérée quand il entendit un coup de pistolet et vit tomber le voleur. C'était un exploit de John, qui arrivait à temps pour sauver son maître. L'autre bandit, fatigué par la perte de son sang et la violence du combat, commença à donner des signes d'épuisement. L'Anglais poursuivit son avantage, le serra de près, et comme ses forces diminuaient toujours, il le poussa dans le précipice. Le suivit des yeux et le vit sans mouvement au-dessous de lui, arrêté sur une pointe de rocher. L'Anglais s'occupa aussitôt de la belle Vénitienne. Il la trouva évanouie. Avec l'aide de John, il la porta sur la route où ce jeune époux était livré au plus affreux désespoir. Il l'avait cherchée en vain et la regardait comme perdue. Mais quand il la vit ainsi revenir en liberté, sa joie fut aussi extravagante que sa douleur. Il eut pressé son corps inanimé contre sa poitrine, si l'Anglais ne l'en avait empêché. Ce dernier se montra alors dans tout son naturel. Il marqua une sollicitude, une galanterie qu'on n'eût pas attendue de son flegme ordinaire. Toutefois, son humanité agissait plus qu'elle ne parlait. Il envoya John à sa voiture pour chercher des secours de toutes sortes, et, s'oubliant totalement lui-même, il ne semblait songer qu'à l'aimable fardeau qu'il portait. Une décharge d'armes à feu au milieu des rochers montra que le combat n'était pas encore fini. La dame revint peu à peu à elle-même. L'Anglais, empressé de l'éloigner de cet endroit dangereux, la mit dans sa propre voiture et, la confiant aux soins de son époux, ordonna au dragon de l'escorter à Fondi. Le Vénitien insista pour qu'il entrât aussi dans la voiture, mais ce dernier refusa. Le Vénitien se confondit en action de grâce. L'Anglais ordonna au postillon de partir. John pensa aussitôt les blessures de son maître, qui furent trouvées peu sérieuses, soit qu'il fût affaibli par la perte de son sang. Le carrosse vénitien ayant été relevé, son bagage replacé, l'Anglais et son domestique y montèrent et continuèrent leur route, laissant les soldats encore occupés à la poursuite des bandits. Avant d'arriver à Fondi, la belle Vénitienne était complètement revenue de son évanouissement. Elle fit la question ordinaire. « Où suis-je ?»« Dans la voiture de l'Anglais. »« Qui m'a délivré de leurs mains ?»« C'est l'Anglais. » Ses transports furent immodérés et entremêlés des exclamations enthousiastes de sa reconnaissance envers son libérateur. Mille fois, elle se reprocha de l'avoir accusé de froideur et d'insensibilité, et, au moment où elle l'aperçut, elle se jeta dans ses bras avec la vivacité naturelle à sa nation et se suspendit à son cou dans un transport expressif de reconnaissance. Jamais homme ne fut plus embarrassé des caresses d'une jolie femme. « Bah, bah !» disait l'Anglais. « Vous êtes blessé !» disait la belle Vénitienne, en voyant couler du sang sur ses vêtements. « Bah, bah, ce n'est rien !»« Mon libérateur ! Mon ange !» lui disait-elle en lui passant les bras autour du cou, appuyant sur sa poitrine ses yeux humides de larmes. « Bah, bah !» dit l'Anglais avec son air de bonhomie et son regard étonné. « Bagatelle que tout cela !» Depuis ce temps, la belle Vénitienne n'accusa plus les Anglais d'être insensibles.